rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Élie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres. Bonjour Virginie.
Bonjour Sébastien.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien.
Merci de m'accueillir chez toi. Alors c'est très calme aujourd'hui parce que du coup on n'entend pas d'enfants, mais je crois que tu as des enfants.
Oui, j'ai deux enfants qui vont bientôt avoir 5 ans, des jumeaux, garçon et fille, Naël et Juliette, qui sont chez mamie pour qu'on soit un peu tranquille cet après-midi.
Comment tu as découvert que tu étais malade ? Comment ça s'est passé ?
Eh bien, très simplement, un jour, j'avais une boule au-dessus de l'épaule, entre le cou et l'épaule. Et donc, je suis allée voir mon médecin qui, tout de suite, m'a fait passer une échographie. Lui, je crois qu'il avait compris de suite. Mmh. Et en un mois, j'étais diagnostiquée d'un lymphome de Hodgkin.
D'accord. Donc avec déjà un mot qui était posé dessus, tu savais ce que c'était à l'époque ou
Eh ben, entre-temps, je m'étais un peu renseignée sur Internet, hein, parce que je ne connaissais pas du tout.
On est en quelle année quand tu as appris
2013,
ça ?
En 2013, il y a 10 ans maintenant. Et non, je ne connaissais pas du tout. C'est le radiologue, lors du scanner, qui m'a dit... mais pourquoi vous pleurez ? C'est rien, c'est un cancer, vous avez de la chance, il se soigne très bien. Donc,
pourquoi vous pleurez, c'est un cancer ? C'est vrai que le raccourci de la phrase est...
C'est ça, mais il a rajouté qu'il se soigne très bien. Et puis, en fait, j'ai un médecin généraliste qui a été exceptionnel, parce qu'en un mois, j'étais pris en charge en hématologie à Nantes. Voilà, il a passé énormément de coups de fil pour que je sois dans le bon service, avec les bons médecins, et prise très rapidement.
D'accord.
Donc, ça a été vraiment très vite.
Ton traitement, du coup, consistait en quoi à l'époque ?
Donc moi, j'avais une forme assez avancée. J'étais en stade 3. Du coup, le choix était fait sur une chimio assez intense, qui était, à l'époque, ça s'appelait le BICOP, mm-hmm. Mais pas de radiothérapie, grosse chimio. Et donc, on m'a proposé de me poser une chambre implantable et en même temps, on a combiné avec une préservation ovarienne.
D'accord, voilà, c'est là justement on entame un autre sujet parce qu'on l'a dit, il y a deux enfants aujourd'hui, donc c'est une histoire qui se termine très très bien.
Oui.
Mais ça a forcément été un questionnement. Si jamais on te propose justement ça, c'est que le traitement augure des possibilités
tout
moins
à fait.
Cool.
Le traitement étant très fort, ils m'ont tout de suite dit qu'il y avait un risque pour la fertilité. Moi, j'étais célibataire à l'époque, donc pas le temps de trouver quelqu'un et,
oui. Vite, fais-moi l'enfant
tout de suite. Voilà, et de faire des prélèvements d'ovules. Enfin, c'était pas possible. Hein. Mm. Donc, à l'époque, ils m'ont proposé une préservation ovarienne qui était vraiment au stade. Comment dire, des prémices, hein, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé un morceau, une lamelle d'ovaire,
d'accord.
Qu'ils ont congelé, en espérant plus tard la réimplanter et que ça remette en fonctionnement les ovaires.
Wow.
Voilà. Bon, de toute manière, pris dans l'urgence, j'ai pas réfléchi, je dis ok, on fait et puis on verra après. Hein,
C'est vrai que dans ces cas de figure-là, surtout quand on est perdu avec ce qui est en train de nous arriver, on a tendance forcément à écouter la parole sans toujours comprendre tout ce que ça implique derrière.
C'est ça, et puis j'étais pas en couple, donc j'étais pas dans un schéma de fonder ma famille tout de suite, et voilà, donc je voulais des enfants, mais pas immédiatement, donc ça m'a pas plus stressée sur le moment que ça. Donc voilà, on a passé cette préservation ovarienne, on a fait le traitement.
Ça se finit bien.
Ça se finit bien. Le traitement, même si à des moments ça a été plus compliqué, ça s'est bien passé. J'étais en rémission totale à la fin du traitement.
D'accord, donc dès le premier coup,
ouais.
Ça c'est génial ça.
C'est super et je suis d'ailleurs maintenant même complètement guérie.
Ça c'est
voilà,
vraiment super.
Comme si je n'avais rien eu.
Mais donc... On rencontre quelqu'un.
Je rencontre quelqu'un juste après la fin des traitements. Voilà, je pense que j'étais dans d'autres dispositions.
Oui, ça allait mieux.
Voilà. Et donc voilà, à 34 ans, ben, on se met en couple
On
rapidement.
pense aux enfants.
Voilà, et rapidement, ben, aussi l'horloge qu'on a un peu dans la tête, on parle de ça, comment on va faire, puisque suite au traitement, moi j'étais ménopausée chimiquement. Moi
D'accord.
j'ai.
Ah oui, donc la question se posait même plus
Ah
là, à ce moment-là.
ben, ça fonctionnait plus à cause de tous les médicaments que j'ai pu avoir. Hein. On m'avait dit. Peut-être qu'un jour ça va reprendre, mais ça, c'est l'inconnu. Ou peut-être pas. Et puis, plus on avance en âge, moins la chance que ça reprenne
Oui.
est là. Hein. Donc,
Et je pose une question probablement très indiscrète, mais lorsqu'on est ménopausé, pardon, chimiquement, les symptômes sont les mêmes qu'une ménopause naturelle, d'accord?
Ouais, pareil. Alors, j'ai un traitement. Depuis, j'ai un traitement hormonal substitutif parce que j'ai 44 ans. Les effets de la ménopause, c'est un peu tôt encore. Hein. Donc, ça se gère très bien. Voilà.
Et donc, alors, vous voulez des enfants?
Voilà. Donc, on a pris rendez-vous avec le médecin qui a fait la préservation ovarienne pour savoir ce qu'il était possible de faire. Hein. Donc, elle nous a expliqué qu'avec cette préservation, c'est une opération extrêmement lourde pour réimplanter ce petit morceau d'ovaire en espérant qu'il refonctionne et que par cette technique à l'époque, il y avait eu moins de 10 bébés nés dans le monde comme ça
Oh, le
et
stress.
que par rapport au passif médical que je venais d'avoir, elle me conseillait pas forcément ça et puis par rapport à l'âge qui a avancé, elle nous a conseillé rapidement de se tourner vers le don d'ovocytes.
D'accord.
Donc,
J'ai cru qu'elle t'avait dit, écoutez, adoptez, ce sera plus simple.
non, vers le don d'ovocytes, parce que le désir pour moi, c'était vraiment de porter mon enfant. Donc, bah, il a fallu quand même qu'on assimile tout ça et qu'on
Il
se
faut le temps que
pose.
ça redescende.
Donc, on avait prévu cette année-là de faire un très grand voyage. Donc, on s'est dit, on laisse passer les mois avant notre voyage, on prend le temps d'en parler, d'y réfléchir, de se poser sur toutes ces questions, et ensuite, on revient vers vous. Donc, ça nous laissait au moins 8 mois de réflexion. Voilà, et puis on a donc, après cette phase de réflexion, on a donc décidé de franchir le pas, de se diriger vers le don d'ovocytes et principalement à l'étranger.
D'accord. Ça
Voilà.
fonctionne comment alors exactement?
Eh bien, alors, pour le don en France, je sais, il faut être sur liste d'attente et quand il y a des ovocytes disponibles, on est appelé. À l'étranger, c'est simple, on paye. Donc c'est très
C'est
rapide.
beaucoup plus facile, oui.
Et voilà, par rapport à l'âge nous qui avançait, à mon ex-mari et moi-même, les délais d'attente, je crois qu'en France, c'est 2 à 3 ans pour un don. Donc en fait,
Oui,
ben c'est ça. Quand on a 25 ans, ça va, mais quand on a 36, 37, ça devient
Oui, on n'est
compliqué.
plus dans les mêmes dispositions.
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi plutôt de le faire à l'étranger. Les médecins nous ont orienté de suite soit vers la Belgique ou vers l'Espagne parce qu'ils ont des habitudes de travail avec pas mal de cliniques. D'ailleurs, beaucoup de médecins en France vont faire des stages spécifiques. Et donc nous, on a choisi une clinique à Barcelone,
D'accord.
tout simplement parce qu'on trouvait ça plus sympa d'aller passer quelques journées à Barcelone.
Et de
Voilà.
profiter du soleil.
Voilà, et de la ville. Donc voilà. Donc on a trouvé cette clinique qui était en lien malgré tout avec le CHU de Nantes, hein, puisque moi je faisais le relais, mais j'étais en lien avec les médecins à Barcelone qui nous envoyaient les ordonnances pour les médicaments.
Je
Et
suppose que.
j'étais suivie par le médecin du CHU de Nantes.
D'accord.
Toutes les échographies s'étaient faites au CHU de Nantes, voilà. Donc, il y avait quand même un lien entre ces deux cliniques.
Ils doivent avoir l'habitude, parce que je suppose que si jamais effectivement c'est plus compliqué en France, le don d'ovocytes, forcément,
Bien sûr.
ils doivent avoir l'habitude de voir des Français débarquer.
Ils voient essentiellement des Européens au sein de leur clinique. C'est
marrant que je fais une digression, mais de ne pas voir ces règles-là changer en France, en tout cas de ne pas les voir se simplifier.
Oui, et ce qui est même assez étonnant, c'est que on s'est dit, bon, ok, c'est un budget, de toute manière, on était prêt à le mettre, donc voilà. Mais malgré tout, à l'époque, c'était pas... depuis, il y a une loi qui est passée sur le don d'ovocytes et tout. Aujourd'hui, avant, c'était pas le cas, quand moi je l'ai fait. Eh ben, on avait quand même une part de remboursée par la Sécurité sociale.
D'accord.
Donc, ils sont quand même conscients, je pense, que les délais et le nombre de donneurs en France sont insuffisants. Donc, du coup, ils participaient aux frais de transport, hein, parce qu'on y allait en avion, les médicaments, enfin, sur certaines choses, on avait quand même une prise en charge, à peu près un tiers des dépenses.
D'accord. Ah oui, quand même, oui.
Oui.
D'accord.
Oui. Donc, c'était... Ouais. C'était pas anodin, puis en même temps, ça montre aussi qu'ils...
Oui, qu'ils sont pas complètement aveugles
voilà.
Sur la situation.
Tout à fait.
Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que ça a marché du premier coup, alors ?
Non. Déjà, alors, il y a un premier rendez-vous. On peut pas s'inscrire comme ça non plus. Il y a un premier rendez-vous avec une équipe médicale en Espagne où on a tout un tas de bilans de santé à faire et de questionnaires à fournir, de photos également, pour se rapprocher au maximum de notre phénotype.
D'accord, donc ça, c'est pris en compte également.
Ah oui.
Ah, c'est génial,
oui,
ça.
Oui, complètement.
Ah,
ouais.
Tu me l'apprends, je ne savais pas
du tout. Oui, ils demandent des photos du visage, en pied, plein de questionnaires sur la couleur des cheveux, les yeux, la corpulence, enfin, vraiment beaucoup de choses, évidemment, beaucoup de bilans de santé. Et suite, une fois qu'ils ont toutes les données, qu'ils nous ont rencontrés, qu'on a expliqué notre projet,
ouais.
Et ben, ils font un comité entre eux et peut-être une semaine ou deux après, ils nous donnent la réponse à voir si ils acceptent de suivre notre demande ou pas.
D'accord.
Voilà. Et donc, nous, ils ont accepté. Et un mois après, ils avaient une donneuse à me proposer, une donneuse compatible, pour laquelle ils ne donnent que l'âge. Ils m'ont juste précisé que le phénotype était très ressemblant. La seule chose, c'est le groupe sanguin qui était différent du mien.
Oui, donc même jusqu'au groupe sanguin, en fait, ils font attention...
Alors oui, parce qu'il y a des personnes qui demandent d'avoir le groupe sanguin identique parce qu'ils ne souhaitent pas dire après à leurs enfants comment ils ont été conçus. Ce n'était pas mon cas, mes enfants sont au courant. Ils comprennent pas bien encore parce qu'ils sont petits, mais c'est absolument pas tabou. Et moi, ils sauront comment ils ont été conçus. Donc, qu'il n'ait pas le même groupe sanguin que moi, enfin... c'est pas dérangeant dans mon cas. Donc moi ça m'a pas posé souci, j'ai accepté cette donneuse et en tout il a...
Tu es en train de faire réviser mes cours de biologie, mais je me souvenais pas qu'il y ait une obligation en plus d'avoir le même groupe sanguin que la maman ou...
Non, alors c'est pas les enfants qui auront le même groupe sanguin que moi, mais alors je sais plus trop les cours de biologie, mais
par exemple le A et le O
peut pas faire un B. Et
oui,
là,
donc si jamais, tout
par
d'un
rapport
coup,
au groupe sanguin de la donneuse, moi je suis O, je sais plus, admettons si elle est A, bah, ça peut pas faire des enfants qui ont un groupe sanguin B. C'est plus sur la combinaison. Donc pour moi, pas un problème. Donc on a lancé toute la machine et il a fallu en tout 5 FIV.
D'accord.
Et un an de traitement pour...
T'as répondu à la question que j'allais poser derrière, du coup. Donc, d'accord, un an de traitement à raison de combien de voyages ?
Eh bien, c'est simple. En janvier, c'était le premier rendez-vous à la clinique. Et la FIV qui a marché, c'était janvier l'année d'après. Donc, 5 FIV plus le rendez-vous, ça fait 6 voyages.
D'accord.
Voilà. Donc, 6 voyages. Et à chaque fois, c'est à peu près 2 mois de traitement de préparation pour la FIV. À peu près.
Et donc, au bout d'un an, la bonne nouvelle.
Oui, auquel je m'y attendais pas du tout, parce que pour le coup, je la sentais pas du tout, celle-là. En plus, c'est la seule fois, j'ai eu un peu mal, j'étais hyper fatiguée. Enfin, vraiment, je...
On est parti pour une 6e, elle est en
plus. J'y croyais pas trop, on s'était dit que c'était peut-être la dernière, parce que bon, après, il y a le portefeuille qui parle aussi, et puisque, petit aparté, la première donneuse a donné peu d'ovules, donc on a dû prendre une deuxième.
D'accord.
Voilà. Et donc, on était déjà à la deuxième demande.
On est évidemment, c'est logique quand tu le dis, mais on est effectivement contraint de faire avec le matériel de base.
Et on ne sait jamais combien ça peut donner d'ovocytes viables. Hein. Et pour le coup, la première fois, il n'y en avait que 3. Donc ça a été vite épuisé, sachant qu'on a dû mettre les 2 premières fois des ovocytes uniques, et après on a pris une autre donneuse, et là on a choisi de les mettre par 2.
D'accord.
Pour multiplier les chances. Et donc la 5e FIV, ça a en effet fonctionné, et très rapidement, parce que 2-3 petits signes, j'avais un peu peur que la grossesse se passe très mal, donc dans le premier mois je suis allée faire une échographie au CHU, et en fait j'ai appris que les 2 ovocytes avaient pris et que j'attendais donc des jumeaux.
c'est pas un cadeau mais 2 cadeaux,
et voilà. Donc j'étais très contente.
Oui, j'imagine, oui, ça, c'est la double bonne nouvelle. C'est...
Tout à fait. Voilà. Et donc avec une grossesse qui s'est très bien passée, jusqu'à 7 mois et demi de grossesse, peu de diabète gestationnel, mais rien de particulier. Puis à partir de 7 mois, c'était un peu plus compliqué. Mais,
oui, mais je me doute.
Voilà,
oui.
J'ai accouché à 8 mois.
Ça prend de la place en plus, mine de rien.
Ça prend de la place. Voilà, c'est des grossesses. J'avais 39 ans au moment d'accoucher, donc qui sont un peu plus surveillées aussi. Grossesse gémellaire aussi plus surveillée, mais tout se passait bien. Et un peu de tension, donc quelques hospitalisations en fin de grossesse, et j'ai accouché à 8 mois. 8 mois moins 3 jours.
Donc dans les meilleures conditions
voilà,
possibles.
Voilà, et les 2 bébés allaient bien à la naissance et sont restés avec moi tout le temps, donc on est resté une semaine, on a pu sortir tous ensemble.
Alors, question bête, mais bon, je me doute que oui, mais pas eu trop de stress pendant les mois de grossesse en se disant, bon, là, on est arrivé jusque-là, enfin, ce serait terrible si ça ne fonctionne pas.
Alors, j'ai eu du stress au tout début de la grossesse parce que jusqu'à temps de faire cette première échographie, j'en avais pas trop. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai perdu du sang, donc j'avais vraiment peur de faire une fausse couche. Et c'est pour ça qu'on a fait cet écho un peu en urgence. Et je pensais vraiment être en train de perdre les bébés, enfin... le bébé, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et donc, quand on m'a dit, ils vont bien, ils sont 2, c'était parfait. Et après, jusqu'à 3 mois et demi, j'étais un peu stressée. Puis après les 3 mois passés, franchement, zéro stress.
Les hormones ont fait leur job.
Ah ouais, puis j'étais la plus heureuse. C'était parfait.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton expérience ou éventuellement un conseil à donner à quelqu'un
Eh bien, un conseil, c'est surtout de pas penser que les choses ne peuvent pas se réaliser. Tout a été plus compliqué après ce cancer. Hein. Pour avoir des enfants, ça a été un peu compliqué. Mais finalement, je suis un peu fière quand même d'avoir eu des jumeaux. Je suis un peu fière d'avoir fait ce parcours qui n'était pas simple. Ça a été plus compliqué pour acheter une maison. Parce que à l'époque, il n'y avait pas ces lois sur le droit à l'oubli, et voilà. Mais j'ai une banquière qui m'a suivie parce qu'elle me connaissait bien, et donc j'ai pu le faire aussi. Je dirais que c'est un tout un peu compliqué, mais finalement, j'arrive à tout faire avec un peu plus de fierté, je pense. Et donc, il ne faut pas se décourager. Il y a plein de solutions qui existent. Aujourd'hui, en France, le don d'ovocytes est devenu beaucoup plus facile d'accès, y compris pour les couples homosexuels, parce que moi, j'ai en couple hétérosexuel, j'avais l'accès facile, mais...
Oui, c'est pas forcément le cas. Ouais,
voilà.
Tout à fait, ouais.
Non, il faut étudier les possibilités, mais tout est réalisable. Et aujourd'hui, mes enfants vont avoir 5 ans. Moi, ça fait 10 ans que j'ai fini les traitements et que tout va bien. Donc.
Oui, on l'a pas précisé. On enregistre chez toi. Il fait chaud aujourd'hui, donc on a ouvert les fenêtres et les enfants qu'on entend. Du coup, mais c'est pas les tiens.
Non, c'est pas les miens.
Ils sont en compagnie tout du long. Écoute,
ça.
Virginie, un énorme merci pour ton accueil et pour ta parole.
Mais c'est avec plaisir. Et j'espère que ce discours encouragera certains à faire de même.
Eh ben, idem. Merci encore.
Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Élie. Retrouvez la conversation entre Virginie et Sébastien, ainsi que l'ensemble de nos productions sur ellie.fr. E2LYE.fr.
Tu fais pas trop de E des fois?
Non, pas du tout.
Ah ouais,
TMDJT Creations.